Il y a de nombreuses questions, hein, et d'abord sur les questions, sur les premières interventions de Vincent et Julie, pas mal de questions sur la morphine intranasale ou le Sufentanil intranasal, avec des questions sur quel matériel pour pulvériser le Sufentanil ou la morphine en intranasale, quelle posologie de la morphine intranasale, quel type de morphine faut-il mieux utiliser en intranasal? Donc, Julie, Vincent, si vous pouvez répondre.
Alors bonjour à tous. Alors il y a des kits, il existe en fait des petits diffuseurs intranasaux. Évidemment, ça s'improvise pas. Ça se trouve dans le commerce. De mémoire, ça vaut pas très cher effectivement. Ce qu'il faut privilégier pour l'administration, ce sont les formes concentrées, bien entendu, hein. C'est-à-dire, vous n'allez pas mettre 10 millilitres dans le nez. Il vous faut prendre de la morphine concentrée, c'est-à-dire 10 mg, 1 millilitre. Pareil pour le Sufenta, vous prenez des formes concentrées pour pouvoir arriver à une bonne pénétration sans effet volume, clairement. Voilà. Et les dispositifs, vous le trouvez à peu près n'importe où dans le commerce. Ça s'achète pour 3 francs 6 sous. Vous tapez ça sur Google, vous trouverez. Nos soucis.
Didier, ça, tu parles, ton micro est fermé.
Oui, une petite question pour Fabien concernant la sédation procédurale. La recommandation Sfar et CFMU de l'époque ne prévoyait pas que l'urgentiste puisse faire de l'analgésie procédurale pour un tiers, c'est-à-dire en gros pour un chirurgien. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se risquer à faire de l'analgésie procédurale pour un interne de chirurgie, par exemple?
Alors, vous m'entendez bien?
Oui.
Alors, j'ai présenté les recommandations sur l'équipe dédiée, enfin l'équipe dédiée dans les recommandations nord-américaines. Ils sont très pragmatiques en général et ils disent clairement qu'on fait bien ce qu'on fait souvent. L'urgentiste fait bien la sédation procédurale et le chirurgien ou le traumatologiste fait bien la réduction. Là, en France, ce n'est pas tout à fait pareil. Effectivement, depuis 2010, les RFE de la Sfar et de la SFMU, c'était marqué clairement que l'urgentiste devait faire la sédation procédurale pour un geste qu'il réalise lui-même. Maintenant, la réalité est peut-être tout autre. Il y a des raisons politiques, peut-être plus que
Oui.
médicales derrière. Et donc, c'est quand même quelque chose de. Bon, pour ma première question, vous m'avez bien gratiné, je pense, parce que c'est pas si évident à répondre. Moi, je sais ce qui se passe dans mon service d'urgence, dans le huis clos du box de déchocage quand on fait la sédation procédurale, parce que bah, je pense que la plupart de mes collègues et moi, on partage cette vision de se dire, on surveille bien le patient, on injecte bien le patient, on vise le moins de complications possible et une sédation de la meilleure possible. Et la réduction d'une fracture trimaléolaire, moi, je ne sais pas faire aussi bien que le traumatologiste. Voilà, clairement. Donc après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que pour l'instant, les recommandations françaises, ce n'est pas ça. Donc on doit continuer à dire que la sédation procédurale, c'est l'urgentiste qui fait la sédation et qui fait le geste. En tout cas, ce qui
D'accord.
est marqué dans les recommandations nord-américaines, c'est clairement de dire s'il y a une complication lors de la sédation procédurale, celui qui fait le geste de réduction, etc., doit être capable d'arrêter tout et de surveiller le patient et de gérer la complication respiratoire ou hémodynamique. Ça, c'est sûr.
Xavier, une petite question de nos jeunes collègues qui demandent, dans le cadre d'un choc septique, quel ISR, quelle molécule?
On peut faire celle qu'on veut. On peut faire de l'étomidate ou de la kétamine. Je pense qu'il n'y a rien au jour d'aujourd'hui qui permet de dire qu'on peut faire l'une plus que l'autre. Après, si on me pose la question, moi, qu'est-ce que je fais? Ben, moi, je fais de la kétamine. Voilà, parce que ça marche aussi bien que l'étomidate. Il y a quand même des suspicions, entre guillemets, même si elles n'ont pas été démontrées sur le plan scientifique. Il y a quand même des arguments physiopathologiques pour dire que l'étomidate, pas forcément le meilleur hypnotique indiqué en cas de choc septique. Donc c'est vrai qu'en cas de choc septique, moi je fais de la kétamine, mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui fait de l'étomidate d'avoir fait de l'étomidate.
Il y avait aussi une question plus pour Fabien qui était comment faire la surveillance d'une sédation procédurale et surtout quand est-ce qu'on peut l'arrêter?
Oui, c'est une bonne question. J'ai fait exprès de ne pas répondre parce que je savais que vous allez me la poser. Effectivement, normalement, comme on a dit, ça doit se passer en sauve, donc le patient est scopé. En général, ce qui est dit dans les recommandations, c'est que quand le patient revient à un état de base et de conscience et respiratoire et hémodynamique, c'est bon. Ça, c'est éminemment variable selon la personne, selon son score ASA, selon sa fragilité, ses comorbidités et puis ce qu'on utilise comme médicament. Si on utilise du propofol, comme je vous l'ai dit, en moins de 10 minutes, le patient il est réveillé totalement, il vous parle comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé. S'il n'a pas fait de complications respiratoires hémodynamiques sous propofol, il n'en fera pas. Il n'y a pas d'effet rebond sous propofol, de dépression respiratoire à une demi-heure ou quoi. C'est ça qui est important et avantageux avec le propofol. Donc, par contre, la kétamine, comme je vous l'ai dit, c'est trois fois plus de délai pour réveiller, pour que le patient soit totalement réveillé, adapté, etc. Donc, on va s'adapter au patient, etc. En général, on peut dire de toute façon que le patient, il doit être au moins une demi-heure en déchoc surveillé. Et puis ensuite, dans la plupart des cas, ça peut être plus court si c'est le propofol, encore une fois. Et ensuite, il va à la radio, il revient à la radio de contrôle, il revient ensuite. On lui fait la radio en déchocage et globalement, on ne peut pas concevoir qu'un patient sorte des urgences en moins d'une heure après la sédation procédurale. C'est pas ni logique ni ici, quoi.
Un petit détail sur le plan médico-légal, il ne faut pas oublier de dire au patient de ne pas conduire une voiture parce que on pourrait avoir des problèmes.
Absolument. Ça fait partie aussi de la dernière partie de notre registre. Ouais, c'est que le patient doit être conduit par un tiers et surveillé également.
Ça va être pour Vincent, même si ça sera du champ. Quelle alternative à la morphine dans un ST+ ?
Attends, je n'ai pas entendu la question, excusez-moi.
Quelle alternative à la morphine dans un ST+ ?
Ah, elle est pour toi, cette question. Non, je ne réponds pas. C'est Sandy qui va répondre.
Hein? Non, je t'en prie.
Le méopa a été utilisé. Je vous engage à lire la biblio justement là-dessus. Vous avez un très bel article qui a été publié. C'est une alternative, on va dire. En l'occurrence, c'est a priori, c'est quand même compliqué d'avoir des critères durs sur l'infarctus, hein, puisque c'est compliqué d'évaluer ça. Maintenant, l'analgésie, je veux dire, toutes les analgésies vont marcher sur le ST+. Moi, une alternative sédusante, ça peut être effectivement le méopa. Après, globalement, alors je suis peut-être pas le meilleur pour en placer, mais je trouve que la morphine marche tellement bien sur tout que je l'utilise partout. Mais voilà, méopa.
Un petit mot sur le monitorage du CO2, là, il y a plusieurs questions dans la rubrique. Là, les gens se demandaient comment le faire en pratique chez un patient en ventilation spontanée. Enfin, nous, on a tubé.
Oui, ça déchaîne les patients. En fait, il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien. Il y a des méta-analyses qui ont été publiées qui disent que ça ne sert à rien. Au final, moi, je suis persuadé du contraire. En tout cas, je le vois quotidiennement quand on fait la sédation procédurale sous monitorage de TCO2 aux lunettes. Ça ne coûte rien. Hein. Ça coûte 2 euros, les lunettes de Capno. Ça se branche, on voit immédiatement si le patient ventile, s'il expire du CO2. On sait immédiatement quoi faire pour gérer son apnée et du coup continuer à l'oxygéner au masque haute concentration. Donc, ça sera difficile de montrer qu'il y a une très grande supériorité de l'utilisation de l'ETCO2 versus pas d'utilisation de l'ETCO2 pour la sédation procédurale, puisque les complications sont tellement rares qu'il faudrait un nombre tellement important de patients pour montrer que c'est utile que ça ne se fera jamais. Mais au final, ça coûte rien, ça peut rapporter gros, il faut le faire. C'est des lunettes de Capno, effectivement, qu'on glisse dans les narines du patient, sous le masque à haute concentration. À chaque fois que le patient ventile, on a une courbe de TCO2, il arrête de ventiler, on le voit dans la seconde. C'est la grande, grande différence avec l'examen clinique et regarder les mouvements thoraciques respiratoires du patient, qui, dans la plupart des apnées qu'on retrouve en sédation procédurale, sont encore présentes parce que c'est du propofol et qu'il est mieux relaxant, il y a une bascule de la langue en arrière, qui fait une apnée obstructive. Si on n'a pas de TCO2, on ne le voit pas immédiatement, ça.
Voilà. D'accord. Alors, je crois que Patrick devait nous donner la main pour redonner la main à Amélie Livrement de la commission jeune.
Ouais. Bonsoir. Donc moi, en fait, je pose vraiment les questions qu'on a reçues sur les divers réseaux sociaux au sujet de ce thème, les questions que les jeunes n'ont pas osé poser ou qu'ils n'osent toujours pas poser. Donc, c'est pour un peu rendre ça plus interactif. Donc, vous avez déjà répondu à un bon nombre de questions, mais effectivement, il en reste quelques-unes, notamment le choix des drogues dans le cadre d'une intubation sur un état de mal épileptique. Ça, c'est une question qui revient souvent. Quelle drogue privilégier dans ce cadre-là?
Alors, je pense qu'il n'y en a pas une plutôt que l'autre entre l'étomidate et la kétamine, hein, puisqu'on va parler des deux. Mais après, on va traiter l'état de mal épileptique. Et puis, ça marche bien le midazolam, hein, quand on va en faire une sédation continue, voire du propofol, pas en bolus. C'est aussi un très bon médicament. Je pense qu'il faut sortir du dogme du pain total dans l'état de mal épileptique. C'est des patients qui ont une hémodynamique qui est de toute façon pas optimale. Et c'est compliqué à manier le pain total. On peut le faire, tout peut se faire. Mais il faut vraiment avoir une titration et être habitué à un médicament qui, en pratique, on l'utilise quasiment jamais. Donc, le sortir le jour de l'état de mal épileptique, je pense que c'est pas une bonne idée. Il faut arrêter l'en faire. On fait étomidate, kétamine et après, on traite l'état de mal épileptique.
OK. Merci beaucoup de cette réponse. Une autre question a été assez souvent soulevée. Alors, on n'en a pas du tout parlé, mais c'est la place de l'hypnose dans l'analgésie. C'est quelque chose qui est parfois utilisé dans certains de nos services d'urgence, voire même en préhospitalier. Certains maintenant smuristes sont même formés. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui se posent de quelle est la place de l'hypnose pour vous dans la sédation à l'hôpital et en préhospitalier.
Vincent, tu veux parler peut-être?
Oui, il n'y a pas d'hypnotiseur, en fait, dans le groupe.
Alors, avant que peut-être Vincent rajoute quelque chose, j'en ai parlé un petit peu quand même, quand j'ai parlé de la kétamine et du fait qu'il faut mettre le patient dans un contexte psychologique positif, c'est ça, en fait, finalement, hein, c'est un peu de l'hypnose conversationnelle. C'est de lui transmettre quelque chose de positif pour qu'il ait un réveil positif. Si on lui transmet sa propre angoisse ou si on lui transmet sa propre crainte, ça ne se passera pas bien sous kétamine. Mais finalement, c'est ça. Et là, dans l'analgésie, c'est exactement pareil. Il faut rassurer le patient, lui expliquer ce qui va lui arriver, pourquoi on va l'amener à la radio et puis ensuite lui faire suivre ça. Rien que ça, déjà, en se mettant 2 secondes à la place du patient, on fait quelque part un petit peu de l'hypnose conversationnelle. Après, il y a des grands spécialistes de l'hypnose que je ne suis pas, qui pourraient en dire plus, je pense. Voilà, c'est.
Ouais, donc en pratique, vous dites que au final, l'hypnose, c'est un peu à chaque moment qu'on fait une, c'est adapter notre parole, notre ton au patient pour que la sédation, enfin l'analgésie, se passe correctement. Donc au final, c'est.
Disons que ça commence par là. Voilà. Après, on peut aller beaucoup plus loin, je pense, dans l'hypnose, mais encore une fois, je suis pas du tout spécialiste pour en parler.
D'accord. Et dernière question, mais je pense que c'est vraiment l'inquiétude, parce que pour le coup, on a toujours eu dans nos services, on est élevé un peu avec ça, et dans certains services, je sais que ça se fait encore, c'est vraiment cette peur d'utilisation du propofol, au point que même dans certains débriefs, voilà, le propofol est vraiment diabolisé. Donc peut-être réassurer tout le monde par rapport aux plus jeunes pour l'utilisation du propofol, dans un contexte où on est bien formé, évidemment.
Effectivement, hein, je pense que là, depuis 2010, les RFE de la SFAR et de la SFMU ont commencé à faire bouger les lignes. Il faut que ça continue parce qu'effectivement, le propofol, il y a des centaines d'articles de retours d'expérience et d'études, etc., dans la bibliographie essentiellement anglo-saxonne, nord-américaine, qui montrent que quand on sait bien l'utiliser, et franchement, ce n'est pas hyper compliqué à utiliser, en tout cas à injecter, je vous dis encore une fois, la préparation du patient et la sélection du bon patient. C'est le plus important. Après, d'injecter du propofol, certaines posologies, etc., après, c'est relativement simple au final. Et effectivement, il faut le dédiaboliser parce que c'est un produit qui est magnifique. Il faut savoir l'utiliser, bien sûr, il faut être formé. C'est tout l'intérêt de des protocoles, la formation, d'avoir des gens un peu leaders dans les services qui veulent se l'approprier et puis aller discuter auprès du pôle anesthésie pour dire... Bon, là, je pense qu'il faut arrêter de le faire, ce qu'on fait d'habitude, hypnomorphine aux urgences et tout, c'est nul. Il faut qu'on s'approprie le propofol. On a la possibilité de le faire, mais il faut le protocoliser. Et en même temps que le protocole, il faut faire un registre qui va montrer sur des centaines de patients chez qui on le fait qu'il n'y a aucune complication. C'est comme ça qu'on a démarré il y a une dizaine d'années aux urgences à Nice. Et c'est comme ça qu'il faut faire dans chacun de vos services, je pense. Xavier,
je pense. Oui, peut-être pour ajouter, je pense que Moi, le parallèle, c'est avec la sélocurine. Il y a 25 ans, pour les plus anciens, quand on faisait du SMUR, les anesthésistes avaient interdit la sélocurine à l'urgentiste. Comment imaginer aujourd'hui d'intuber un patient hors arrêt cardiaque sans sélocurine? Le propofol, c'est la même histoire. Exactement. Dans 10 ans, on sera exactement au même point.
On espère avant quand même, non?
Enfin, avant, oui. Il y a des services où c'est déjà avant, mais il faut toujours un petit peu de temps. Mais
je pense que si on le manipule, on manipule régulièrement, c'est très safe hein, comme drogue, hein, je crois.
Ça va être la même histoire.
Ouais.
Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions.
On a épuisé les questions.
Les jeunes. Il y a une petite question qui revient pas mal, c'est quelle molécule pour la en cas de choc électrique externe. Propofol, kétamine, Hypnovel, quand il y a pour un trouble du rythme mal toléré.
Oui, j'ai répondu un petit peu par écrit, mais c'est vrai que c'est bien de y revenir. Alors, il y a un certain monsieur Frédéric Adnet qui avait proposé d'utiliser du propofol à très très petite dose pour son caractère ultra court, sa sédation ultra courte, pour justement administrer un éclair, le choc électrique externe au patient et qu'il se réveille tout de suite ensuite. Après, il y a le fait qu'effectivement, c'est quand même plus délicat à utiliser chez un patient qui est précaire sur le plan hémodynamique. Hein, le propofol, même à petite dose, titré, même en faisant très bien. Alors que l'étomidate, à dose, au tiers de la dose de l'ISR, à 0,1 mg kilo, à une stabilité hémodynamique, va être quand même assez court en termes de délai de réveil et va pouvoir être une bonne solution. Personnellement, pour la sédation procédurale, que ce soit clair, je n'aime pas du tout l'étomidate pour toutes les autres indications que la cardioversion en urgence. Je trouve que ça reste peut-être la dernière indication, l'étomidate, pour le choc électrique externe du patient conscient qu'il faut sédater brièvement et chez qui on veut une stabilité hémodynamique puisqu'il est déjà précaire. Après, la kétamine, un dernier mot, ce n'est pas un bon choix à ce moment-là puisque le patient va déjà être très, très tachycarde. Il a un trouble du rythme, il faut le choquer. La kétamine inhibe la recapture des catécholamines, va augmenter sa fréquence cardiaque encore plus chez un patient qui a déjà une cardiopathie peut-être plus ou moins ischémique ou déjà une tachycardie, c'est pas une très très bonne idée quoi. Donc en 1 plutôt l'étomidate, et si on est vraiment très fort comme Frédéric Adnet, on fait du propofol à très petite dose de façon titrée quoi.
Il faut rappeler aussi que dans un choc électrique externe, l'hémodynamique elle a tendance à s'améliorer après le choc parce que l'altération hémodynamique elle est déjà liée au trouble du rythme et sa réduction va booster l'hémodynamique normalement.
Un dernier mot juste pour dire que le piège dans ce genre de patients, c'est qu'ils ont un bas débit général qui est tellement important qu'il faut vraiment savoir attendre l'effet de la drogue qui s'installe, l'étomidate ou autre, parce qu'on a tendance à être un peu pressé, à être un peu stressé, on pousse. C'est là que c'est dangereux, en fait, hein, au final. Alors qu'il faut juste laisser aux médicaments le temps d'agir, d'aller dans le volume de distribution, etc. C'est vraiment un piège. C'est pour ça que peut-être l'étomidate est plus facile. On fait une injection lente de 0,1 mg kilo. On attend, on voit. Par contre, c'est vrai que dans une vingtaine de pourcents des cas, il y a des myocloniques qui peuvent être impressionnantes parfois. Qu'on ne voit jamais lors de l'ISR, bien entendu, puisque c'est sécurisé, mais que là, on voit, et bon, ce n'est pas très grave en soi, hein, puisque ça va vite, ensuite on le choque, et puis c'est terminé. Voilà.
Et peut-être une question d'actualité, est-ce qu'il y a une ISR différente pour les patients en Covid ? Xavier ? Question qui a été posée là.
Pour le Paltrox ?
Non. Enfin, l'ISR, on parle. Hein.
L'ISR, oui.
Non, pour moi, il n'y a pas de…
L'ISR chez le Covid ?
Non, il n'y a pas de spécificité. Enfin, il y a des spécificités sur toutes les précautions qu'il faut prendre, les gestes qui entourent l'intubation, la protection des soignants, etc. Mais sur la pharmacologie… Non.
Il y a une question là, sur la formation. On peut faire d'analgésie-sédation. Je crois que ça fait partie du background d'un urgentiste, il n'y a pas besoin d'une formation, enfin ça fait partie de la formation de base, non? Qu'en pensent les professeurs? Sandrine?
Ça fait partie de la formation.
Ah oui. Bon. Pas ça, t'es eu pour faire du propofol.
Non. Non, c'est sûr, c'est sûr qu'il y a eu énormément, il y a eu énormément de questions sur le propofol, hein, et c'est vrai que ça sera bien probablement dans des futurs RFE de clarifier un peu tout, parce que je pense que ça, quand on voit les questions qui ont été posées, on voit bien qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'inquiétudes à l'utiliser, qu'il y a toujours cette inquiétude de se ne réserver aux anesthésistes. Donc, ça sera bien que les RFE remettent un peu le propofol avec une indication un peu claire.
Une dernière question sur le Dubin, ça existe encore ce truc?
J'espère pas. Ouais. Enfin, je sais pas, peut-être un petit mot. Le Dubin intrarectal, comme le. Ah, ben, il y a Vincent qui va pouvoir rajouter quelque chose, je suppose, mais le Dubin intrarectal que faisaient les pédiatres avant aux enfants, le problème, ben, c'est que c'est un agoniste et un antagoniste et qu'il y a une variabilité interindividuelle qui est importante. Honnêtement, quand on commence à utiliser de l'intranasal, du fentanyl intranasal chez l'enfant, on arrête complètement d'utiliser le Dubin intrarectal.
Oui, aucun intérêt. Hein. Vous avez alors vraiment un effet palier net et les mêmes effets indésirables. Donc moins bien et plus dangereux. Donc franchement, arrêtons le Dubin, quoi. Il faut surtout pas continuer. Je ne sais pas pourquoi on continue d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça.
Plus de questions. On regarde Karine.
Y compris en pédia, arrêtez avec le Nubin, arrêtez. L'enfant, il a les mêmes récepteurs que nous, il va avoir les mêmes effets indésirables que nous, donc pas de Nubin, quoi. Arrêtez, s'il vous plaît, je vous en supplie, quoi. Avançons, quoi. Avançons.
Bon, je crois qu'on arrive à peu près à la fin. Sandrine, je te laisse conclure. Sandrine. Le micro ne marche pas.
Juste avant que peut-être Sandrine conclue.
Ça y est, c'est bon.
Excusez-moi, je vais juste en profiter avant la conclusion de Sandrine pour rappeler simplement la naissance très récente du board de douleur de la SFMU, auquel j'ai l'honneur de participer avec Virginie Lovchi, qui est présidente de ce board, et Michel Galinski, entre autres. Il y a des paramédicaux, il n'y a pas de monde. Et voilà, il y a une adresse mail qu'il fallait que je transmette, donc je le fais, c'est board douleur SFMU, tout attaché en minuscule, @gmail.com. Et sur le site de la SFMU, il va y avoir donc une page spécifique board douleur, comme il y a une page spécifique board ACR. Ça va être bien, on va essayer de l'alimenter très régulièrement avec des web-lettres, plein de choses. Donc je vous invite à y aller dès que ce sera prêt, dans quelques semaines, je pense, tout sera prêt. Merci.
Merci Fabien, ça pourrait être presque la conclusion en fait. Hein. Donc merci vraiment aux intervenants. Je pense que ce qui est important, hein, on a vu que ce soit sur les voies d'administration, sur les alternatives à la morphine, sur les sédations procédurales, l'ISR, ce qui est quand même important, c'est de maîtriser les drogues qu'on utilise, d'avoir des protocoles de prise en charge, de surveillance qui soient parfaitement écrits, diffusés, et surtout qu'on sache les utiliser de façon habituelle. Il n'y a pas forcément de vérité et une façon de faire, vous l'avez vu, hein, on a vu quand même beaucoup de choses, beaucoup d'alternatives, mais ce qui est important, c'est de faire bien ce qu'on sait faire. Voilà. Et surtout, évitons les escalades thérapeutiques avec les associations un peu bizarres parfois. Et puis certaines molécules doivent disparaître, comme on a dit, avec le Nubin. Donc, encore une fois, merci. Je devais aussi vous rappeler que le congrès urgence aura bien lieu cette année. Donc, il faut absolument que vous répondiez présent pour notre société. On verra de quelle forme on se retrouve. C'est le 2, 3 et le 4 juin. Donc, on espère que vous serez très nombreux. Didier, le mot de la fin.
Alors, le mot de la fin, c'est pour annoncer le webinaire du mois prochain. Vous l'avez en diapo, donc qui sera consacré à la détresse respiratoire et qui sera précédé d'un symposium, puisqu'on n'a pas pu en avoir cette fois-ci, un symposium qui sera consacré aux thrombopénies, aux urgences. Eh bien, il nous reste à prendre congé de vous, à vous remercier. Vous avez été entre 400 et 500 pendant ce webinaire. Le webinaire il sera disponible dès minuit sur le site de la SFMU. Vous pourrez donc le revoir pour ceux qui ont raté une partie ou ceux qui n'ont pas pu se libérer. Et puis, on vous dit rendez-vous au mois prochain. Merci à tous et à toutes.
Merci, bonsoir.
Au revoir.
Au revoir.